peux pas être un entrepreneur qui essaie de partir une entreprise pour amener de la valeur aux gens, mais de fermer les yeux que la solution potentielle, c'est quelque chose que tu connais pas. Genre.
Salut à tous, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce podcast « Jeune et ambitieux » créé par le club RETS de l'ETS. Ce podcast construit par des étudiants pour des étudiants vous fera découvrir le monde de l'entrepreneuriat et peut-être motivera les plus ambitieux. Tous les mois, nous recevrons de nouveaux invités inspirants qui nous partageront leur expérience. Ainsi, pour cet épisode, nous recevrons les cofondateurs de l'entreprise Quat&Go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième podcast. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Jean-Sébastien et Maxime, les cofondateurs de l'entreprise Quat&Go. Donc d'abord, merci tous les deux d'être venus aujourd'hui pour ce podcast.
Merci à toi.
Donc, on va séparer ce podcast en deux étapes, comme habituellement. Donc, dans un premier temps, on va plus parler de vous, de votre parcours et de votre entreprise en général. Puis après, on essaiera de creuser un peu plus dans la technicité pour comprendre comment ça marche vraiment votre entreprise. Donc, dans un premier temps, est-ce que chacun à tour de rôle, est-ce que vous pourrez vous présenter qu'est-ce qui vous êtes et c'est quoi votre parcours?
Oui, mon nom, c'est Maxime Leclerc. Je suis le CEO, cofondateur de Quat&Go. Tu dis le parcours, tu veux dire comme comment j'ai débuté, comment j'ai rentré dans l'entrepreneuriat.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là aujourd'hui?
J'ai un parcours assez particulier parce que, on a fait quand même partie, là, on est un peu dans la communauté entrepreneuriale, fait qu'on rencontre beaucoup de personnes. Puis si je compare un peu mon parcours avec les gens autour de moi, personnellement, j'ai commencé dans l'immobilier. Au secondaire, dans le fond, là, en finissant le secondaire, je suis allé au cégep, mais je savais pas trop dans quoi je voulais me diriger. J'ai toujours eu un côté artistique, fait que je pensais à peut-être graphic design, quelque chose du genre. Ouais. Mais finalement, j'ai mis ça un petit peu de côté quand j'ai réalisé qu'il y avait d'autres manières de faire des sous. Mon grand-père, lui, est investisseur immobilier à succès.
Okay.
Fait que ça m'a inspiré. J'ai posé beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, premier livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat, c'est « Rich Dad, Poor Dad ». Je pense que c'est comme le livre, tu sais, basic que tout le monde a lu. Puis, ça m'a comme un peu ouvert les yeux à une autre facette, une autre manière de faire des sous, finalement, puis de gagner sa vie. Fait que j'ai commencé là, au cégep. Puis ensuite de ça, j'ai réalisé, tu sais, il y a une grosse partie de l'investissement immobilier qui est trouver des projets qui ont du potentiel.
Ouais.
Fait que c'est pas passer du temps à acheter des blocs puis faire de l'argent, mais c'est passer du temps en ligne à essayer de trouver une opportunité. Right?
OK, d'accord.
Puis ce qui m'a fasciné, c'est que je passais des jours et des jours et des jours à juste essayer de trouver quelque chose que peut-être qui pourrait générer des profits. Fait que, si tu veux, c'est là, je pense, un petit peu que j'ai comme développé mon... Ben, pas développé, mais j'ai plus comme réalisé que j'avais la fibre entrepreneuriale parce que plutôt que de m'acharner à essayer de trouver des deals puis continuer à passer mes journées à faire ça, je me suis dit, je vais créer un système.
Ouais, pour faciliter, en fait.
Pour faciliter, parce que c'est pas vrai que je vais passer mes journées à essayer de trouver quelque chose quand je sais même pas si j'aime ça ou si c'est ça que je veux faire dans ma vie. Fait que j'ai appris à développer un petit peu de VBA. JS, il rit. parce qu'en tout cas, le VBA, c'est un peu comme un vraiment basic comme langage. C'est vraiment ancien.
Ouais.
Mais j'ai codé un petit logiciel dans Excel,
okay,
en Visual Basic, qui permettait de web scraper. En tout cas, qui web scrapait de l'information pour trouver les meilleurs deals, finalement. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, ouais, je veux vraiment construire un système. Je veux pas juste faire de l'argent, je veux apporter de la valeur. Puis ensuite de ça, JS, au pire, vas-y avec, puis on va dire comment on s'est rencontré.
Moi, dans le fond, c'est à partir à peu près du cégep. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je pensais comme aller en médecine, en psychologie, en plein d'affaires différentes. J'ai pensé comme architecture à mon nez, des trucs comme ça. Puis ce que j'ai fini par réaliser over time, c'est j'aime ça créer des choses, je savais pas quoi, comme qu'est-ce que je voulais créer exactement.
Ouais.
Puis à la fin du cégep, comme je pense, dernière session, il y avait un cours de programmation à option, mais je fais comme, bah, j'avais jamais programmé de ma vie. Je fais comme, on va essayer de voir quoi ça a l'air. C'est un jeu vidéo qu'on crée, fait que ça avait l'air cool comme projet.
Ouais, ça semblait bien.
Exact. Fait que là, je commence à travailler un peu là-dessus, puis au final, je commence à triper pendant comme 2-3 mois à travailler là-dessus. Puis là, à la fin, en fait, au moment où il faut que je prenne ma décision de où est-ce que je m'en vais à l'université, puis j'ai encore aucune idée où est-ce que je m'en vais, j'ai juste pris un dollar, juste fait plus face, est-ce que je m'en vais à Polytechnique en génie informatique, il y a comme plus de stuff que je peux faire en tout temps, qu'est-ce qui est informatique. Où est-ce que je m'en vais dans le côté qui est plus psychologie ou comme plus sciences naturelles, on va dire. Puis là, ben, ça a donné que je suis allé à Polytechnique. Donc au final, j'ai juste fini par me rendre à Poly. Puis là, pendant 4 ans, c'était vraiment juste from scratch, apprendre comment programmer, apprendre comment les systèmes, comme ça fonctionne. Puis, tu sais, au début, j'étais pas sûr c'était vraiment ça que j'aimais faire. Mais plus j'avançais dans les cours, plus j'ai fini par réaliser que, tu sais, t'as la partie théorique que t'apprends à l'école, mais la grosse partie d'apprentissage que t'as, c'est vraiment à côté quand tu fais juste commencer à dire, ça me tente de créer un site web pour faire X, Y, Z. Ça me tente de juste créer un AI pour, tu peux prédire le prix des stocks. Tu sais, des affaires que tu dis, je fais ça pour le fun, mais au final, c'est là-dedans que t'apprends pour vrai. Puis c'est vraiment de cette manière-là que j'ai fini par me dire, que, ben, je sais pas ce que je vais faire plus tard, mais j'ai juste envie de créer des outils, de créer des choses, faire des projets. Puis c'est vraiment comme ça pendant 4 ans de poly que j'ai juste créé une couple de projets de même.
Ouais.
Puis après la deuxième année de poly ou la première année, je me rappelle plus, il y avait un genre de concours, ça s'appelait 24 heures Startup. Puis à ce moment-là, en fait, j'étais avec un de mes amis, puis on s'est juste dit, bah, tant qu'à faire, on connaît rien d'entrepreneuriat, on veut juste y aller pour voir de quoi ça a l'air, puis tout ça, puis comme partir une business finalement en 24 heures. Donc on finit par se rendre là, puis là, bon, on dort pas, c'est une nuit blanche pendant 24 heures.
Ouais, 24 heures.
Tu commences à apprendre comment ça marche le business, tu n'as aucune compétence là-dedans, tu fais juste apprendre comment ça marche. Puis finalement, on a juste vraiment trippé pendant ce temps-là. Ensuite de ça, vers la fin de poly, entre-temps, j'ai pas fait grand-chose relié à l'entrepreneuriat, c'était plus des petits projets, des projets de programmation finalement que je fais, comme des jeux vidéo et trucs comme ça. Puis vers la fin de Polytechnique, la troisième année, avec cette même amie-là, en fait, on a décidé de faire un projet étudiant, qui dans le fond, c'était un comité étudiant pour parler un peu de tout ce qui est les enjeux éthiques par rapport aux nouvelles technologies, à l'IA, à blockchain, et trucs comme ça.
Ouais.
Puis c'était vraiment plus dans un modèle comme conférence qu'on faisait, comme de webinaire, parce que c'était en même temps que le COVID. Fait qu'au final, on apportait des invités, mettons, qui venaient nous parler de l'impact du IA du côté des banques, mettons, ou l'impact de l'IA du côté, genre... comment est-ce que ça va changer la société, des trucs comme ça, au niveau de l'emploi et des affaires comme ça. Puis là, en faisant ça, je finis par réaliser comme je tripe vraiment à juste monter une équipe pour arriver à créer un projet qui va porter de la valeur aux gens. T'sais, au final, c'était pas juste on fait un projet pour nous, comme je faisais, mettons, tout le début de Polytechnique. C'était en plus, tu fais un projet pour transmettre du knowledge que tu as, puis transmettre du knowledge que les invités que tu as sur ton webinaire ont. C'est vraiment ça qu'on trouve intéressant.
Mais honnêtement, puis c'est un peu, tu sais, moi, quand je dis mon histoire, au début, ça a vraiment commencé avec l'aspect sous, genre.
Ouais.
Dire comment est-ce que je peux faire de l'argent? Mais, tu sais, je veux dire, si je reflète aujourd'hui, tu sais, on est parti côté go, l'idée en arrière de ça, c'est vraiment pas nécessairement de faire de l'argent, mais c'est plus, on se dit, on a un set de compétences qu'on peut utiliser comme leverage pour ramener de la valeur aux gens. Puis je pense que, tu sais, c'est vraiment la meilleure façon qu'on peut le faire, c'est d'utiliser nos compétences. Puis plutôt que d'aider une personne à la fois ou whatever, si on est capable d'aider 100 000, 1 million de personnes à la fois, ben, t'as beaucoup plus d'impact. Puis je pense que c'est ça, honnêtement, qui m'inspire, qui fait en sorte qu'on continue. Mais tu sais, pour merger un petit peu l'histoire de comment qu'on s'est rencontrés, moi, finalement, c'est ça, j'étais comme au cégep, mais finalement, j'ai décidé d'arrêter ça, puis j'ai commencé à prendre des cours en vente. Mais pas des cours en vente, mais j'ai commencé à aller faire du cold call, puis du porte-à-porte.
Ouais, ouais, t'es allé sur le terrain.
Exact, j'étais allé sur le terrain, et je me suis dit, l'école, ça n'a jamais vraiment été pour moi, honnêtement. J'ai peut-être été un petit peu distrait, puis j'avais d'autres idées, puis j'étais très artistique. Puis, fait que j'étais allé faire du porte-à-porte, ben, j'étais allé de job en vente, jusqu'à temps que je vende finalement des services d'asphalte, comme d'asphaltage, comme réparer ton asphalte, puis la receller au bitume, tout ça.
Okay.
Ben, puis, tu sais, j'étais relativement bon, mais avec la pandémie, il y avait une grosse problématique, c'est que les gens étaient pas super enclins à venir se faire déranger chez eux avec la pandémie, tu sais. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'il doit avoir une meilleure façon de faire ça, puis surtout que c'est pas scalable. Toutes les compagnies qui vendent l'asphalte, vraiment, c'est comme ça qu'ils opèrent ou qu'ils ont un team de vendeurs qui vont porte. Fait que là, j'avais eu un brin d'une idée pendant le COVID en me disant, il me semble qu'on pourrait faire ça en ligne, puis je pourrais monter un système. J'avais commencé encore une fois à développer un système en VBA pour un de pour la compagnie pour laquelle que je travaillais à ce moment-là. Puis ça faisait comme tout le secrétariat pour eux autres. Puis genre, tu sais, ils m'avaient payé parce qu'ils m'avaient payé, je pense qu'ils me payaient 200$ par semaine. C'est pas grand-chose, mais ils me payaient 200$ par semaine pour faire comme une job de secrétaire. C'est-à-dire, quand on avait des clients, fallait les téléphoner un par un puis les booker. Mais moi, j'avais fait un système qui le faisait automatiquement. Fait que je faisais comme 200$ sans rien faire.
Ouais, t'avais optimisé le truc.
Exact.
Nice.
Puis là, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut amener ça au prochain niveau? Puis l'idée, en fait, c'était que les clients ils puissent commander leur asphalte en ligne parce que je me disais, si on regarde une map là, satellite, là, on est capable d'avoir l'asphalte du client. Puis je me disais, dans ma tête, ben on calcule ça au pied carré. Ouais. Fait que si on est capable de savoir la mesure, on serait capable de donner un prix puis serait capable d'acheter en ligne. Fait que j'ai mis ça un petit peu dans le tiroir de mes idées. Puis je travaillais dessus un projet immobilier avec un ami en commun là, de moi puis JS.
Ouais.
Puis je sais pas si tu veux expliquer un peu comment on s'est rencontrés.
Ouais. Dans le fond, c'est l'ami dont je parlais du 24 heures startup. Puis les projets qu'on faisait avant, ben, c'était un ami-là, ça a donné qu'il connaissait Max. Fait que là, ben, on a fait un call à un moment donné, je sais pas, c'était un peu avant que je termine Poly, ça doit faire 2 ans à peu près. Puis là, ou 1 an et demi, je sais plus. Puis dans le fond, on a juste commencé à parler comme de, comme Max disait son idée d'en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire des soumissions, on va dire, d'asphalte automatiquement en ligne sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui se déplace pour les faire finalement.
Ouais.
Donc là, on commence à parler de ça, on commence à brainstormer un peu les trois ensemble. Puis quand Max a parlé de l'idée de, on pourrait avoir un système qui est automatique, qui fonctionne directement en ligne sans que quelqu'un se déplace pour mesurer l'asphalte, j'ai direct pensé au, comme j'ai fait un plus un, j'ai
bah ouais, me suis dit... T'as vu tes compétences en computer vision et t'as direct vu le lien comme quoi tu pouvais utiliser l'intelligence artificielle pour
exact. Faire ça. Exact. Je me suis dit, si l'AI est capable de mesurer des... Ben, en fait, pas mesurer, mais est capable de détecter des chiffres de 1 à 9, s'il est capable de voir c'est quoi l'image, au final, il est capable de voir ce qu'est un asphalte, puis capable de la détecter puis la mesurer.
Ouais.
Puis là, c'est de là un peu que c'est parti.
Ouais, au début, c'est drôle parce que c'était vraiment juste comme un sideline, un projet vraiment sideline. Ouais. C'était vraiment pas une entreprise ou whatever. C'était plus comme développer la tech puis voir où est-ce que ça allait.
Ouais.
Mais plus qu'on en parlait, je me rappelle à un moment donné, on avait eu un call puis j'étais comme... je me rappelle pas dans quelle direction le call était vraiment allé, mais je sais que c'était comme... ça a été comme un moment eureka de comme...
Ouais.
Ouais, ça peut vraiment comme changer. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on commande tout en ligne.
Ouais.
On commande, tu sais, si tu veux un sandwich, tu peux le commander en ligne. Tu veux une paire de souliers, tu peux le commander en ligne. Tu veux, tu sais, n'importe quoi, tu peux le commander en ligne. Puis de dire que... En plus, tu sais, je veux dire... Le monde ne se connaît pas dans la construction. Là, quand tu as une maison puis tu veux juste, je sais pas, réparer ton toit, réparer ton asphalte, whatever, puis qu'il faut que tu passes du temps au téléphone à appeler différents contracteurs, puis là, finalement, il ne vient pas ou il ne vient pas te donner une soumission, puis là, il faut que tu les compares. Tu sais, c'est un peu un mal de tête. Les gens le font, puis ça se fait bien. Mais on s'est dit, tabarnouche, c'est impossible que dans 10 ans, dans 15 ans, que l'industrie reste pareille puis que les gens continuent à faire du porte-à-porte en 2023, là, puis que ce soit la manière principale que tu vendes ces types de services-là. Puis, tu sais, c'est un peu ce moment-là où tu fais comme, ouais, si c'est pas nous qui le fait, ça va être quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr que ça sera pas du porte-à-porte dans 10 ans, tu sais.
Non, mais ouais, c'est clair. C'est hyper... Au final, ouais, c'est super logique parce que c'est un problème où les gens, ils ont juste, comme tu as dit, ils ont pas envie à chaque fois d'appeler. C'est vraiment une tâche hyper compliquée. Enfin,
ouais.
Un peu.
Grosse perte de temps, chiant, au final. Ouais, ça voilà. Peut être optimisé, tu sais, on fait quand même en 2023. Là.
Ouais, c'est ça, on est en 2023, on a de l'intelligence artificielle partout, on se dit, bon, il y a quelque chose à faire, quoi.
Exact.
Mais du coup, au final, c'est quoi Content Go?
Enfin, ouais, fait que c'est ça, fait que l'idée, là, c'est de dire, ben, les clients, ils ont juste à rentrer leur adresse de leur maison, puis avec des algorithmes qu'on a développés à l'interne, on leur donne des prix automatiques pour des services d'entretien extérieur.
OK.
Fait que, par exemple, tu veux entretenir ton gazon ou tu veux entretenir ton asphalte ou tu veux refaire ton asphalte, tu as un problème avec ton toit, tu fais simplement, tu rentres ton adresse, puis automatiquement, nos algorithmes, ils disent, ah, ben ça te coûterait 1 000 $ pour le remplacer.
OK.
Puis nous, en fait, on travaille avec des contracteurs qui sont vérifiés, puis on te match avec un contracteur directement.
OK.
Un peu à la Uber Eats, où quand ton livreur, il s'en vient chez toi, ben on dit, ton couvreur s'en vient réparer ton toit, puis il est en route, puis il fait les travaux.
OK. Et comment vous avez retrouvé les contracteurs? Comment ils ont accepté? Parce que du coup, est-ce que ça ne leur enlève pas une partie de leur travail de, je sais pas, de ce côté de démarche ou c'est vraiment, eux aussi, ça les aide au final?
Ouais, ben en fait, c'est ce qui est drôle, c'est que la plupart de ces contracteurs-là, ils ont, je te dirais que la majorité de des employés qu'ils ont à l'interne, des salaires qu'ils payent, c'est des vendeurs. Right? Parce que c'est eux qui vont chercher, les ventes, ceux qui vont vraiment chercher les contrats. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est difficile de trouver des bons vendeurs, surtout qu'ils restent.
Ouais. Right?
Fait qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient être un petit peu complémentaire à leur équipe en disant, ben, on va remplir là où vous avez des trous dans votre horaire puis vous pourriez avoir potentiellement plus de jobs, ben, on va aller vous en chercher plus.
Okay.
Puis il y a une autre manière qu'on est très complémentaire, c'est qu'il y a un certain bassin de population qui n'est pas à l'aise au porte-à-porte ou au cold call ou quoi que ce soit,
ouais,
qu'on est capable d'aller chercher avec un modèle à la Uber. Right?
Ouais.
Ils sont prêts à commander en ligne parce que ça leur facilite la tâche, parce qu'ils font déjà tout en ligne, ils commandent tout sur Amazon.
Ils sont pas habitués à appeler, mettons, un contracteur au hasard. Là.
Surtout la nouvelle génération. Ouais. Si tu penses aux nouvelles générations de propriétaires de maison, là, c'est vers là qu'on s'en va.
Ben, clairement, même en 2023, je me vois mal accepter quelqu'un qui toque chez moi pour me proposer de me vendre quelque chose.
ouais,
je vois vraiment mal ça aujourd'hui. Ok. Mais ouais, du coup, ouais, ça vient vraiment de tout, toute l'idée, elle vient de toi qui, depuis le début, recherche une solution. Et au final, votre rencontre qui fait que ça devient logique.
Ouais,
exact.
Ouais,
ouais, puis c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est pas... je me cherchais pas un cofondateur.
Non.
C'est vraiment, je pense, ça a bien arrivé, ça a bien timé. Ouais. Puis,
ça a comme créé l'idée. Ben, en fait, je veux dire, Max, c'est le début de l'idée. Genre.
Ouais.
Puis moi, j'ai comme le début de la solution. Puis justement, les deux quand on s'est rencontrés, ça fait comme, OK, ben, c'est pas juste un projet, ça peut devenir une compagnie pour vrai, finalement.
Mmh. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça fait une bonne équipe, quoi.
Ouais.
Et du coup, pourquoi, au final, le nom Quote & Go?
Ouais, ça, c'est quand même drôle, pour vrai. Parce que, tu sais, on n'avait aucune idée comment appeler la compagnie. T'sais, au début, c'était juste un projet, puis on brainstormait là-dessus pendant une couple de jours.
Ouais.
Au final, ce qu'on s'est dit, c'est, ben, il faut un nom pour cette compagnie-là. Fait qu'on a fini par juste faire une liste de tous les mots qui ont rapport avec soumission, asphalte, rénovation, rapidité, simplicité. T'sais, on a juste fait une grosse banque de mots, comme peut-être 200 mots là-dedans. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai créé un script en Python, fait qu'un programme, finalement, qui va venir juste faire un match entre tous ces mots-là, entre, mettons, un et trois mots différents.
Ah, c'est toi qui as fait le programme.
Exact, ouais. Moi, ça a pas pris de temps. C'est juste comme mets un ensemble de mots ensemble, tu te fais juste dire, crée le plus de variables de mots avec ces trucs-là. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'avec toutes ces variables de mots-là, on les a juste mis sur, mettons, GoDaddy, c'est un site qui va regarder les noms de domaine.
Ouais.
Puis avec ça, on a juste regardé c'est quoi le nom.com qui est libre en ce moment et qui coûte le moins cher.
Ouais, ouais. Ben en fait, parce que c'était pas nécessairement celui qui coûtait le moins cher. Je pense que le nom était le plus important.
C'était celui qui coûtait pas, mettons, 5 000$ à acheter.
Oui, oui,
ouais,
c'est
non,
ça.
Mais Quote & Go, je pense que ça a juste bien à donner.
Ouais.
Parce qu'en réalité, genre, Quote & Go. Non, c'est ça. Je pense que c'était le nom qu'on aurait choisi de toute façon. C'est plus quand on avait regardé en ligne, parce que ce qu'on faisait, la problématique qu'on avait, c'est qu'on avait une couple de noms qu'on trouvait qui étaient bons, mais quand on a regardé en ligne, le .com, il n'était pas disponible. Il était déjà pris, genre. En tout cas, mais non, si on n'est pas vraiment faire quelque chose qui va exploser, le but, c'est qu'on aille le .com. Là.
Ouais.
On ne peut pas avoir le .com. Fait que finalement, Quote & Go, ça a donné... on avait Quote & Go, Quote... trait d'union go.com. Ça, c'est celui qu'on a en ce moment. Puis là, on a acheté Quote & Go, pas de trait d'union, tout collé. Fait que
ouais,
quote&go.com ouais, aussi. Ouais.
Ouais. Puis c'était quand même cool parce qu'on parlait aux gens ensuite de tout de Quote & Go. Tout le monde avait à dire, mais ça, j'ai entendu ce nom-là.
Ouais, ouais.
Fait que si c'était un nom qui était déjà familier, on s'est dit, c'est sûr qu'on prend lui puis on y va avec ça.
Ouais, c'est vrai, c'est simple. Et en plus, du coup, ça donne l'idée de ce que c'est un peu.
Exact.
Ouais. OK. Mais du coup, aujourd'hui, vous en êtes où dans le développement?
Ouais, tu sais, honnêtement, je pense que là, on rentre un petit peu dans la beauté des startups. On y va au jour le jour, là. Parce qu'en réalité, c'est qu'il y a toujours des challenges, tu sais, il y a des block roads, puis c'est vraiment une expérience qu'on vient tester des assumptions.
Ouais.
Right? Fait qu'un petit peu, l'assomption qu'on est en train de tester en ce moment, c'est de dire que les gens sont prêts à commander ce type de service-là en ligne. Pour
ouais.
nous, ça semble logique. Right?
Ouais,
on en parle, puis même sans me dire, tu sais, ça semble juste logique. Mais il faut tester cette assumption-là.
Ouais,
tant
personnes.
Et si longtemps que les gens y achètent pas, ben on peut pas dire « Ah ouais, c'est concluant » puis passer à la prochaine étape. Fait que l'idée en ce moment, c'est de dire, premièrement, ben, comment est-ce qu'on teste cette assumption-là? C'est qu'on vient emmener du trafic sur notre site Internet.
Ouais. Okay.
Fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent sur la page. Puis après ça, évidemment, il faut qu'ils convertissent. Fait que c'est-à-dire, c'est pas juste d'arriver sur la page, il faut qu'ils achètent. C'est comme ça, c'est là qu'on vient vraiment tester notre assumption. Fait que, pour acheter, bon, il faut qu'il passe par la première page, qu'il choisisse son service, par exemple. Tu sais, il y a tout un flow des différentes pages au travers desquelles il doit passer pour finir par faire un paiement, right?
Okay.
Fait qu'il choisit son service, il rentre son adresse, il fait des certaines sélections, son prix est automatisé, puis après ça, il achète. Fait qu'en ce moment, on est vraiment dans un processus d'analyse, de récolte de données puis d'analyse, où on emmène les gens sur notre plateforme, puis on voit... C'est un petit peu, c'est bizarre à dire, là, mais c'est un peu comme faire une expérience avec des singes. Dans le sens, tu sais, tu regardes, bon, la première page, ah, on change le bouton de couleur, est-ce que là, maintenant, est-ce qu'il clique dessus ou il clique pas dessus? Puis vraiment, c'est du A-B testing où on essaie de différentes choses. Puis je pense, tu sais, c'est pour ça que je dis, au niveau des startups, c'est un petit peu, c'est ça la réalité, tu sais, on parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment de juste dire, c'est quoi l'assumption que je veux tester, puis de le tester. Juste de faire le saut, de faire le tremplin, puis de l'essayer, parce que c'est des utilisateurs à la fin de la journée qui peuvent le dire. Puis tu sais, nous autres, on a déjà, je pense, je sais pas si t'es au courant, là, qu'on avait fait des accélérateurs.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que tu sais, on avait fait le Centec, justement, qui est relié avec le TS. On a aussi été à NextAI. Puis, tu sais, au travers de notre premier accélérateur, nous autres, on a commencé avec NextAI.
OK.
Puis, au travers de notre premier accélérateur, notre objectif, c'était de lancer la plateforme le plus rapidement possible. Right? Fait qu'on est arrivé day one. Moi, je venais juste de revenir du Mexique. J'habitais au Mexique.
Okay.
On était accepté dans NextAI. Fait que j'ai embarqué dans l'avion. Je suis revenu à Montréal. Là, on a embarqué dans NextAI. Puis, la première compagnie avec qui on avait parlé, ils nous ont dit, « Guys, honnêtement, vous êtes en train de vous planter. Vous savez vraiment pas ce que vous faites. Il faut que vous ayez un prototype qui fonctionne puis que vous le testez le plus rapidement possible.
Ouais. »
Right? Nous autres, là, on passait, puis c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est pas de savoir ce que tu fais, c'est vraiment juste de faire des choses.
Ouais,
puis de parler à des gens qui sont là où tu voudrais être, puis dire « Hey, je suis rendu avec telle étape, peux-tu m'aider? » Puis te re-questionner, mais quand même de garder un ground sur ta vision. Je pense qu'avoir une vision qui est solide à long terme,
ouais,
c'est la chose la plus importante quand tu pars une entreprise, parce que c'est la seule chose que tu peux dire « C'est là que je veux aller. » C'est ça mon objectif, c'est là que je veux aller. Je sais pas comment je vais me rendre, mais je vais tester les affaires, je vais me péter la gueule jusqu'à temps que je m'y rende. Fait que tout ça pour dire, on arrive à NextAI puis on se dit, OK, notre objectif, c'est de lancer la plateforme le plus rapidement possible.
Okay. Right?
Puis c'est ça le challenge d'une startup, c'est qu'il faut que tu lances, puis tu relances, puis tu relances. Tout le monde dit, ah, faut que je veux avoir un gros lancement. Ça n'existe pas.
Non.
Ça n'existe pas.
C'est un, plein de petits lancements après
l'autre. C'est plein de lancements. Ouais, mais c'est toujours un gros lancement. Je veux dire, tu te donnes toujours, ouais, à 100%. Puis c'est un peu ça. Si là, on est dans une étape où qu'en ce moment, au mois d'avril, ben, on relance la plateforme avec un nouveau design.
Okay.
Honnêtement, on regarde en ce moment, ça a l'air vraiment clean. Ça va être une expérience qui est vraiment cool pour l'utilisateur. C'est super personnalisé. Fait que comme tu fais des choix, puis tu vois ton prix qui s'affecte en temps réel. Tu vois ta maison, genre. Ça va être vraiment cool.
Ben, c'est pour mettre en contexte, là, au début, mettons, durant l'été, quand on était en extérieur, quand on s'est fait dire qu'il faut qu'on launche le produit, là,
ouais,
c'était vraiment quasiment un one-pager qui disait « Choisis ton service là-dessus, rentre ton adresse. » Puis c'était vraiment comme tu avais 3 clics à faire pour pouvoir acheter.
Ouais.
Puis avec ça, c'était pas, le client est arrivé là puis il n'avait pas nécessairement confiance dans le site. C'était comme « C'est-tu un vrai site? C'est, qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie compagnie qui font ça. » Fait que ce qu'on a fini à faire, c'est parler à plein de users, aller faire du porte-à-porte justement pour parler aux
propriétaires
de maison. Exact. Ouais, puis leur dire « C'est quoi que vous voudriez pour régler votre problème de trouver un correcteur? » Tu parles même pas du site, tu parles rien, tout ça, tu fais juste leur dire, dans un monde parfait, c'est quoi que tu voudrais.
Ouais.
Puis là, tu vois un peu c'est quoi, comme où est-ce que les gens sont allés là-dessus, puis c'est quoi leur vrai problème. Puis de là, tu peux commencer à dire, OK, on va juste, genre, work backwards, puis commencer à créer un site par rapport à ce qu'ils disent.
Mais t'sais, parce que souvent aussi, puis tu sais, au niveau des utilisateurs, ça, je pense, c'est quelque chose qui est super important, c'est du monde qui écoute puis qui veulent partir une compagnie. C'est que demander à tes clients c'est quoi qu'ils veulent, souvent, là, t'as vraiment ça va être une minorité de tes clients qui savent exactement c'est quoi.
Exact,
qu'ils
veulent. Ouais. C'est hyper
typique.
Compliqué.
Ben, c'est typique de genre un entrepreneur de savoir c'est quoi que c'est quoi. Tu sais, nous autres en ce moment, on fait du testing sur notre site. OK? Puis ce qu'on dit à l'utilisateur, c'est qu'on ne dit pas comment est-ce que tu voudrais que le, genre, on a un mock-up d'un, ouais, site web qu'on veut tester. On le mettrait devant un utilisateur, puis on dit OK, t'es un propriétaire de maison, tu veux acheter un service de gazon, go. Right? Puis c'est tout l'information. Puis ton but, ton objectif, c'est d'acheter un service de gazon.
Ouais.
Right? Puis après ça, on lui dit, au travers de ton expérience, dis-nous comment tu te sens, qu'est-ce qui te confuse, qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis au travers de l'expérience de l'utilisateur, on vient à comprendre puis d'être capable de se mettre dans ses souliers. Mais c'est notre job, à moi, à JS, puis à n'importe quel fondateur d'une entreprise, de dire, OK, mais comment est-ce qu'on règle ce problème-là? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il se sente mieux? Tu ne veux pas demander à ton utilisateur, OK, tu te sens pas bien, mais qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois pour te sentir bien? Parce que la plupart des gens ne regardent pas la vie au travers de ces lunettes-là.
Right?
OK. Ils voient leur problème, ils ne voient pas la solution directement, ouais, nécessairement.
Ouais, ouais.
C'est ça que tu vas aller chercher.
Fait que, tu sais, puis c'est une des erreurs qu'on a faites, tu sais, depuis au début, on s'est dit, bon, ben OK, on pense avoir quelque chose, on va aller faire des sondages. Puis je pense qu'on a fait un sondage 200 personnes.
Quelque chose comme ça, j'en rappelle.
Quelque chose genre.
C'est pas mal quand même.
Ouais, j'ai fait 6 villes. J'ai parti de la rive nord, j'ai fait différentes villes jusqu'à sa rive sud. Puis en tout cas, finalement, c'est des données que, tu sais, ça dit pas grand-chose. Parce qu'en réalité, même si le sondage, il dit « Ah ouais, moi, je prends mon argent, tu sais, prends mon argent. » S'il y a personne qui vient sur le site puis qui met sa carte de crédit, ça veut rien dire.
Tant qu'on n'a pas cliqué acheter, tu sais que c'est pas confirmé à 100% que tu as vraiment réglé un problème pour la personne, finalement.
Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, en fait, eux, vous leur vendiez une solution, ils se disaient, ah ouais, c'est super cool, mais au final, est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'ils auraient voulu utiliser?
Exact. C'est ça, parce qu'au final, tu parles à la personne, tu lui dis hypothétiquement, si j'avais quelque chose qui réglerait ton problème, tu sais, t'es au porte-à-porte avec la personne.
Ouais, ouais.
Ça se peut qu'il faut qu'elle nourrir le chien, il faut qu'elle fasse la vaisselle, peu importe, il n'y a pas nécessairement le temps de te parler. Fait qu'il va dire, ouais, c'est sûr que je voudrais acheter ton affaire. Mais quand il est rendu que 6 mois plus tard, il est devant le site puis il voit ça, s'il n'a pas confiance en l'information du site, s'il n'est pas sûr que la job est bien faite, peu importe, il y a le même problème qu'avec un contacteur. Fait qu'au final, tu n'as pas réglé le problème vraiment. Ouais. Nous, notre job, c'est vraiment d'enlever tout le bruit, puis garder le comment est-ce qu'on fait pour satisfaire le client puis pour être sûr que toutes les informations que j'ai recueillies en lui parlant puis en le voyant tester l'application, être sûr que je pinpointe vraiment c'est quoi le problème spécifique puis comment est-ce que je peux apporter de la valeur pour vrai à cette personne-là.
Ouais. Ouais. Du coup, ça, c'est votre job tout le temps, quoi.
Exact.
D'où ce que tu dis là, que vous allez mettre un peu à jour tout votre site justement en fonction de ce que les clients vous ont dit et tout ce que vous avez analysé.
Ouais, mais même honnêtement, souvent, c'est même pas. Oh, on va mettre à jour le site par rapport à ce que les clients nous ont dit. Souvent, c'est on va mettre à jour le site parce que. Je veux dire, si on a une série d'utilisateurs, parce que souvent, c'est plus dans un output, c'est plus un résultat négatif qui va faire en sorte qu'on change quelque chose qu'un résultat qui est concluant. Right? Fait que ce que je veux dire, c'est ah, il passe pas à la deuxième page. Mais c'est pas les clients qui vont dire ah, j'aimerais ça que la première page soit comme ça pour que je passe à la deuxième page.
Non.
Fait que c'est juste ok, on va essayer quelque chose de complètement différent. Puis je pense que comme une des meilleures façons de le faire, c'est de tester les edges. Genre, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de faire une solution puis juste l'itérer un petit peu, t'essaies les deux, t'essaies les extrêmes, genre. T'essaies les extrêmes en premier. Fait que ce que je veux dire, c'est, par exemple, si on a deux hypothèses. La première hypothèse, par exemple, notre première version de notre site, la première action qu'on demandait à un utilisateur de faire, c'était de rentrer son adresse.
OK.
Mais si tu veux une deuxième approche, ça serait de lui demander le service qu'il veut en premier, right?
Ouais.
Fait qu'on a un peu ces deux hypothèses-là, puis c'est nos deux extrêmes dans ce cas-ci. C'est de dire que les deux seules manières qu'on peut faire la première page, c'est de dire soit qu'il choisit un service, soit qu'il rentre son adresse.
Right? Par exemple, au lieu de faire, on va demander de rentrer son adresse, mais de cette manière-là spécifique. T'sais, au lieu de faire plein de petites itérations sur comment rentrer son adresse,
ouais.
On fait juste se dire, on va faire un ou l'autre, puis on voit celui qui marche le mieux. Puis là, tu sais c'est quoi vraiment. Tu peux peaufiner ensuite, mais au moins, tu sais dans quelle direction tu dois aller first.
OK, exact. Ouais, ça permet de te recalibrer, ouais.
Exact.
Ouais.
Fait que c'est ce genre de changement-là qu'on fait un peu. Là.
D'accord, OK.
Puis au final, tu sais, c'est aussi en parlant à des utilisateurs, souvent, ils vont aller regarder le site tout de suite, puis on les voit, mettons, qu'ils vont scroller dès le début. Ils vont aller plus loin sur le site pour avoir plus d'informations. Fait qu'on sait que la première action qu'ils font, c'est pas entre leur adresse. Ils veulent plus d'informations.
Ouais.
Donc, le but, c'est de leur donner plus d'informations dès le début, au lieu de les forcer à faire une action.
OK.
Ouais. C'est ce genre d'insight-là, en fait, qu'on prend.
D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment
c'est pour ça, tu sais, je veux dire, quand
une
on parle
étude.
Ben c'est ça, c'est une expérience scientifique, c'est vraiment ça.
Ouais.
Fait que puis c'est important de l'approcher comme ça, puis d'avoir un objectif qui est très précis, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand on dit bon ben quand quelqu'un achète, on sait que ah, c'est du data, mais quand quelqu'un achète pas, c'est aussi d'autres data qu'il faut analyser. Ouais.
Exact.
OK. Justement comment vous récupérez toutes ces données? Enfin, qu'est-ce que vous utilisez pour
Tu parles pour récupérer, mettons, les insights par rapport à ce que les clients font sur le site?
Ouais, ou même les données de tous les contracteurs et de toutes les données satellites.
Ouais, ben je pense qu'on va commencer juste parce qu'on est dans le sujet. Tu sais, puis c'est vraiment des outils qui sont faciles à implémenter sur à peu près n'importe quelle plateforme. Tu sais, nous autres, on code notre site en React. Fait que c'est vraiment comme natif, okay, comme ouais, tout ouais, est programmé from scratch. Mais tu sais, même sur Wix, je pense que quelqu'un
ouais, sur Wix qui m'entend. Dans le fond, ce qu'on utilise pour les analytics, on va dire, comme les insights de qu'est-ce que les clients font sur le site,
ouais.
On utilise des plateformes, mettons, comme Google Analytics, où est-ce que tu peux voir c'est quoi chacun des clics que l'user a fait, tu peux voir combien d'users sont allés sur le site, etc.
Mais aussi, tu sais, on utilise aussi une plateforme qui s'appelle Hotjar.
OK.
Ça, honnêtement, là, c'est, tout le monde devrait avoir Hotjar. En gros, ça te permet d'avoir un recording de la session d'utilisation de ton utilisateur.
Ah ouais, c'est super intéressant comme
ouais.
Donné.
Ouais. Ouais, tu vois où est-ce qu'il clique exactement, tu vois toute l'action qu'il fait, puis en même temps, ça cache les informations confidentielles. Fait que
ouais, oui.
Tu n'as pas l'adresse du client, rien. C'est vraiment juste que tu vois tout ce que le client fait sur ton site, tu vois où est-ce qu'il bloque, tu vois où est-ce qu'il fait plein de clics un peu au hasard parce qu'il ne sait pas quoi faire. C'est ouais. Vraiment intéressant. Là.
Ouais, c'est surtout sur ça, du coup, vous basez toute votre étude, quoi.
Exact.
Exact, ouais.
Ouais. Et dans tout ce projet, c'est quoi vos principaux défis? C'est quoi ce qui vous donne le plus de challenge?
Ben, tu sais, je te dirais, ben, pour faire un petit peu référence à ce que je disais de bon, dans une startup, tu sais, t'as une assumption, t'essaies de la tester. Ben, c'est d'avoir un objectif, évidemment, d'avoir des clients qui payent parce que ça confirme que tes hypothèses étaient bonnes. Puis après ça, tu peux itérer à comment est-ce qu'on scale cette valeur-là qu'on apporte aux gens. Mais ce que je te dirais, c'est que un problème, tu sais, je veux dire, c'est comme si t'as un objectif, il y a plusieurs problèmes qui sont comme sous-jacents.
Ouais.
Dans le sens, tu sais, tu dis, c'est quoi nos challenges? Le challenge, c'est que souvent, on va avoir, tu sais, c'est plus, c'est toujours des hypothèses de, ah, ben, on va essayer de tester telle affaire. Ah, on va essayer de tester. Puis c'est de rester open-minded à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Genre, ce que je veux dire, c'est que personnellement, de rester open-minded à utiliser des stratégies pour résoudre un problème qu'on n'a même pas les capacités pour faire.
OK.
Right. Mais qu'on n'a pas les capacités pour faire.
Ouais, ouais,
ce que je veux dire, c'est qu'on apprend en permanence comment
ouais,
on a ça. Juste des défis, juste des problèmes. Ben, des problèmes. Juste des défis tout le long du parcours entrepreneurial, on va dire.
Ouais. Ouais.
Fait qu'au final, à chaque jour, tu apprends à faire de nouveau. Puis c'est ça qui va te permettre comme de. Tu si es face à une situation où est-ce que si tu n'apprends pas quelque chose, tu fais juste crash down.
Ouais. Ouais.
Fait que tu n'as pas le choix. C'est soit la business continue puis tu as appris une nouvelle chose ou soit tu arrêtes tout maintenant.
Ben, surtout dans. Puis tu sais. Ce qui est fascinant, c'est que ça demande une espèce de réflexion de soi dans le sens où tu peux pas être un entrepreneur qui essaie de partir une entreprise pour amener de la valeur aux gens, mais de fermer les yeux que la solution potentielle, c'est quelque chose que tu connais pas.
Ouais.
Tu sais, tu peux pas atteindre ton objectif si tu viens à te dire... Tu sais, parce que souvent, en tant qu'être humain, c'est quelque chose qu'on fait souvent, que comment, ben, je veux juste pas y penser, puis je veux pas y penser pour pas que je stresse ou whatever. Mais la réalité de la chose, c'est que si c'est une solution potentielle, c'est quasiment ton obligation de dire « Ah, cette solution-là existe. Right? » Ouais. C'est peut-être pas celle que je veux tester en premier. Il y a peut-être d'autres choses que je peux tester plus rapidement parce que j'ai un skill set qui me le permet. Mais peut-être qu'il faudrait faire des drones, genre, puis aller faire notre propre imagerie satellite, genre,
ouais,
pour avoir une meilleure résolution. C'est peut-être.
Ouais, et
puis il faut le garder en considération parce que si c'est le cas, le business model change complètement.
Ça change tout.
Ça change tout. Ouais.
Même vous, le temps de réapprendre tout ça,
de repartir
de zéro encore.
Ouais.
Ça doit être souvent ça. À chaque fois, tu découvres un problème, tu te dis « Ah, mais c'est quelque chose que je ne sais pas faire. » Et du coup, on recommence.
Ouais, tu l'apprends sur le tol.
Ouais, voilà, c'est ça.
J'aime
ouais.
le point que Max a apporté. Là. C'est vraiment ça. C'est vraiment tu arrives à un point où est-ce que tu te dis « La solution que je pense que la bonne, c'est pas nécessairement la bonne. » Fait que ouais. c'est vraiment prendre ton ego puis le mettre à côté. Là, parce que ce que tu as besoin, c'est vraiment savoir que dans toutes les solutions possibles qui existent, il y en a sûrement une couple là-dedans que je connais, puis il y en a une couple que je connais même pas. Puis là, c'est là que vient l'avantage de parler à des gens puis voir c'est quoi leur point de vue puis brainstormer avec des gens, tout ça. Parce que de ce moment-là, vous allez pouvoir, peut-être que personne n'a la meilleure solution par eux-mêmes, mais tout le monde ensemble finit par trouver une solution qui est peut-être pas la meilleure, mais qui est une des meilleures jusqu'à maintenant.
Ah, puis encore, tu sais, je pense que JS, genre, ça tie in tellement à ce qu'on disait comme plus tôt, puis ça fait tellement de sens dans le sens. Si tu le fais, si tu pars une entreprise pour faire de l'argent, puis le faire pour toi-même, à moins que tu sois vraiment égocentrique, puis tu veux vraiment faire de l'argent, tu sais, non, mais c'est sérieusement, si on le ferait pas pour des centaines de milliers de personnes, puis potentiellement de changer l'industrie de l'entretien de maison, on n'aurait pas la même motivation de dire, hey, on va apprendre quelque chose que j'ai jamais fait. Puis, tu sais, je veux dire, on va manger du craft dinner pendant ce temps-là, puis on va manger des craquelins, genre, tu sais.
Il faut que tu sois un petit peu crazy pour passer une business.
Ouais.
Parce que l'affaire, c'est que tu n'aurais pas le niveau de résilience nécessaire si, à la base, tu ne disais pas « Ce que je fais, ça vaut vraiment la peine, pas juste pour moi, mais pour d'autres gens autour de moi aussi.
Ouais. » Ben, surtout, le but de ça, à la base, c'est d'apporter une solution pour les gens, pas exact. Pour vous. Donc, c'est surtout de se mettre ouvert à toutes les possibilités pour répondre aux problèmes du client.
Ouais. Puis tu sais, je pense qu'une des affaires que JS puis moi, on était venus à voir à un moment donné, là, c'est qu'on s'est dit... Même pour un MVP, je pense que c'est bon pour n'importe qui veut partir une entreprise. Une fois que tu dis « OK, ça, c'est le problème. » Parce que souvent, tu sais, quand on part une entreprise, même au Santec, ils apprennent ça, tu sais, c'est « OK, c'est quoi le problème que tu essaies de résoudre? »
Ouais.
Clairement, c'est quoi? Puis une fois que tu trouves le problème, moi, une des choses qui me vient en tête vraiment rapidement, ben, qui nous est venue ensemble, c'est de dire « Comment est-ce que je peux prendre le problème de cette personne-là, faire en sorte que ce soit mon problème maintenant? »
Ouais.
Right? Ouais. Qu'eux, ils n'aient plus le problème, mais que ce soit moi qui ai le problème. Parce que souvent, ce que je réalise, c'est que quand j'ai des problèmes dans ma vie personnelle qui m'appartiennent à moi, ça peut être des problèmes bidons, là. On va être honnête, là, on a tous des problèmes bidons. Okay. On vient à trouver des solutions super rapidement parce que c'est un obstacle dans ta vie, ça t'empêche d'avancer et d'atteindre ce que tu veux atteindre. Fait que c'est de prendre, si tu veux, être entrepreneur, c'est de prendre la souffrance des gens puis de dire, je vais en faire ma responsabilité, puis je vais trouver la solution pour ça.
Donc, c'est le propre personnel un peu. Là.
Vous avez parlé tous les deux de Syntec et NextAI. J'imagine que ça vous a aidé beaucoup, justement, pour avoir un peu cette réflexion.
Ouais.
Ouais, je pense qu'honnêtement, à la base, JS puis moi, on a toujours eu une réflexion interne. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours eu des conversations ou qu'on essaie de s'améliorer, right?
Ouais.
Fait que je pense que ça, c'est une précondition.
Ouais.
Mais ce que NextAI puis Syntec nous a permis de faire... En ce cas, JS, je sais pas, tu parleras de comment toi, mais personnellement, tu sais, quand je suis arrivé à NextAI, over time, j'ai comme fait, ah, OK, je sais pas c'est qui va avoir du succès là-dedans et qui va changer le monde, mais clairement, je suis dans une... Clairement, les gens qui m'entourent, je pense qu'il y avait quoi, 30 startups?
NextAI?
Ouais. Ouais, 30 startups. Je dis clairement, ça, c'est les gens qui vont construire l'avenir de demain.
Ah ouais.
Fait que ouais. Puis tu le vois, là, clairement, ils ont de l'ambition.
Tu
puis
le sens dans la pièce.
Ouais, tout le monde est motivé. Pièce, ouais.
Ouais,
ça se sent.
Puis tu dis, fait que quand je parle à ces gens-là, puis que je vois qu'ils m'écoutent, tu sais, si, tu sais, des fois, mettons, je vais parler à mon père d'une idée ou whatever, il s'en fout, là. Tu comprends? Mais quand tu parles, parce que c'est pas, lui, il veut pas aller changer le monde, tu sais, il a sa job, puis c'est une chose, mais quand, par exemple, tu parles à quelqu'un qui est en train de, je sais pas, Happly, mettons, qui est en train de complètement révolutionner la manière que tu vas chercher des subventions. Fait que c'est parce que c'est une grosse partie des startups d'aller chercher de l'argent pour partir l'entreprise, puis il y a des subventions au Québec qu'on peut aller chercher. Eux sont en train de faire une plateforme où tu peux appliquer puis les obtenir finalement un claquement de doigts. Là.
Ouais.
Ben, quand tu parles à des gens comme ça, par exemple, leur CEO Thierry, c'est un entrepreneur du G20, il a un background, il a parti toutes sortes de startups. Tu parles à quelqu'un comme ça, puis il t'écoute, puis le feedback que tu lui donnes, tu le vois apparaître sur sa plateforme, tu fais tabarnouche. j'ai proposé un feature, puis oh, boum, c'est sur sa plateforme. Genre, ouais. Wow.
Ouais.
Puis si tu vois l'impact que ça a, pas juste sur moi, mais sur genre des centaines de milliers de personnes, puis vraiment la communauté au complet, puis je trouve ça super inspirant. Là,
ouais, c'est vrai que d'avoir un peu d'être dans cet écosystème, ça doit te motiver. Et
ouais.
C'est, tout le monde s'entraîne un peu. Quoi.
Ouais, puis nous autres, comme je t'ai dit, quand on est arrivé à NextAI, nous autres, c'est le premier incubateur qu'on a fait. Première chose qui est arrivée, première journée même, on s'est assis, on dit OK, là, il faut travailler sur le business plan. Puis il y a juste l'équipe, juste en avant de nous autres, et puis Presto, qui nous ont dit ouais. Ils disent, guys, qu'est-ce que vous faites à faire un business plan? Vous n'avez même pas d'MVP, genre. Vous n'avez même pas un produit qui est sorti sur ouais. le marché. Faites juste faire quelque chose. Puis voyez, c'est quoi qui colle, genre. Ouais. Puis, fait que, tu sais, je veux dire, après ça, on a toujours été comme, ah, OK, si on a une question, on va aller poser à quelqu'un parce que eux, ils ont déjà, puis c'est ça l'entrepreneuriat, genre. On dirait, c'est une grosse communauté où que c'est très ouvert, c'est très divers. Il
ouais.
y a des gens de 50 ans, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, puis JS, là, on est dans la vingtaine. Right? Puis de dire, OK, ben moi, je sais pas comment le faire. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis le monde, sont, tu sais, quand on parle de mentors, puis si, puis ça, on est tous un petit peu les mentors les uns des autres, là, dans une communauté comme ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Fait que je te dirais, la communauté, ça nous a aidés, mais vraiment d'une manière qui est pas calculable.
J'imagine que vous avez eu un avant-après. Ça a dû se ressentir dans votre entreprise et dans ouais. la façon de penser.
Ben, t'sais, pour mettre en contexte, moi, la première fois, je suis arrivé à NextAI. J'étais rendu en me disant, comme, OK, ça va être cool, ça va nous aider à avancer la business. C'est vraiment juste ça, mon mindset avant ouais. de voir c'est quoi pour vrai. Puis dès que je me suis assis à la première comme, conférence qu'il y avait, la première journée, j'ai comme eu un sentiment de vertige en me disant, comme, damn, OK, je suis ici, puis tous les gens autour de moi, comme Max disait, ils vont révolutionner le monde. Comme c'est pas juste des gens qui veulent le faire. C'est que
c'est
pas le combien là-dedans, mais il y en a une couple là-dedans qui vont actuellement révolutionner le monde. Puis ouais. ceux qui vont pas le faire pour cette startup-ci, ça va être leur deuxième ou troisième startup qui va révolutionner le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Alors, tu te rends là, puis c'est juste électrisant. Comme tu te sens juste. Tu te sens que tu es dans un groupe avec qui tu fits pour vrai. Genre, c'est tous des crazy people.
Ouais.
Comme tu es juste là, puis peu importe les obstacles qui vont se passer, tu es sûr que ce sont des gens côté de toi qui vont pouvoir te back up pour t'aider, puis te dire, comme Max disait, telle affaire que tu as rien de faire en ce moment, c'est vraiment pas une bonne chose. J'ai déjà fait l'erreur 5 fois dans le passé. Fait que maintenant, je veux juste t'aider en te disant, fais pas ce truc-là, fais ça à la place.
Ouais, c'est vraiment des bons conseils.
Juste de te sauver comme 10 000 ans juste pour travailler sur ta business.
Ouais.
Fait que c'est juste plein d'énergie qu'il y a partout de même, puis c'est insane.
Ça doit être quelque chose, ouais. Bah, je pense qu'on est pas mal bon pour aujourd'hui. On a abordé pas mal de thèmes. Juste pour conclure, comment on pourrait vous suivre et c'est quoi vos pages où vous êtes le plus actif? Enfin, vous êtes le plus actif sur quoi?
Ouais, mais en ce moment, comme on disait, notre but, c'est d'ici avril, là, on fait vraiment on a une nouvelle version de la plateforme qui sort. Mm-hmm. Ça va être vraiment fait. On est en train de travailler sur une couple d'affaires qui sont vraiment cool. Puis on va commencer justement à faire. Là, on embarque dans le marketing, fait que des blogs, des affaires comme ça. Okay. Fait que ça peut être intéressant de suivre. Merci pour ça. Dans le fond, Instagram, Facebook, ouais. LinkedIn, okay, name it.
Tout
on est là, ouais. Quote and Go, Quote, comme une soumission en anglais, ouais. N, comme la lettre, go.
Ouais.
Fait que. Okay. Allez nous suivre.
Ouais, on est surtout sur Facebook puis LinkedIn en ce moment.
Ok, d'accord.
Les plateformes vont être créées à côté parce qu'on a besoin pour le marketing. Là, mais,
ouais, j'imagine. Ok, et vous recrutez du monde
toujours.
Est-ce que vous avez envie d'agrandir votre équipe?
Toujours. La manière qu'on le voit, le recruter des gens, c'est vraiment qu'on cherche des gens qui sont passionnés à régler un problème.
Ouais.
Right? Fait qu'on a des challenges au niveau du marketing, on a des challenges au niveau du AI, on a des challenges à peu près dans n'importe quel field. S'il y a des gens qui sont... On cherche toujours des gens qui sont... Mais est-ce qu'on engage? Est-ce qu'on cherche? on est toujours en train de chercher, mais en même temps, on n'est jamais en train de chercher.
Ouais.
C'est vraiment qu'on cherche des gens qui sont passionnés comme nous, on l'est, puis qui veulent percer, puis qui veulent vraiment accomplir quelque chose de plus grand que nature, plus qu'on cherche à engager des employés per se.
Ouais.
C'est plus une communauté qu'on cherche.
Ouais.
C'est une équipe que tu crées. Au début, c'est vraiment plus ça qu'une entreprise, on va dire. Ouais. Tu crées une équipe, tu bâtis les trucs, tu finis par avoir une compagnie qui commence à fonctionner. Puis là, par magie, ça commence à devenir une compagnie à un moment donné. Puis ouais. Là, ça tourne.
Ouais, se retrouver autour d'une idée, d'une façon de faire, quoi.
Exact, ouais.
Se retrouver autour d'une passion. Ok, bah merci beaucoup, hein, franchement, tous les deux d'être venus aujourd'hui.
Merci à toi. Merci à toi.
Merci encore d'avoir écouté ce podcast Jeune et Ambitieux. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast.